Gloire au Seigneur. Bonsoir frères et sœurs. Voilà, j'aimerais qu'on puisse faire une lecture dans le livre des Nombres. Et on va lire le chapitre 17. Livre des Nombres, donc. Chapitre 17. L'Éternel parla à Moïse et dit, « Parle aux enfants d'Israël. » Et prends d'eux une verge, selon les maisons de leur père, soit 12 verges, de la part de tous leurs princes, selon les maisons de leur père. Tu écriras le nom de chacun sur sa verge, et tu écriras le nom d'Aaron sur la verge de Lévi. Car il y aura une verge pour chaque chef des maisons de leur père. Tu les déposeras dans la tente d'assignation, devant le témoignage, où je me rencontre avec vous. L'homme que je choisirai sera celui dont la verge fleurira, et je ferai cesser de devant moi les murmures que profèrent contre vous les enfants d'Israël. Moïse parla aux enfants d'Israël, et tous leurs princes lui donnèrent une verge, chaque prince une verge, selon les maisons de leur père, soit 12 verges. La verge d'Aaron était au milieu des leurs. Moïse déposa les verges devant l'Éternel dans la tente du témoignage. Le lendemain, lorsque Moïse entra dans la tente du témoignage, voici la verge d'Aaron pour la maison de Lévi avait fleuri. Elle avait poussé des boutons, produit des fleurs et mûri des amandes. Moïse ôta de devant l'Éternel toutes les verges et les porta à tous les enfants d'Israël, afin qu'ils les vissent et qu'ils prissent chacun leur verge. L'Éternel dit à Moïse, « Reporte la verge d'Aaron devant le témoignage pour être conservée comme un signe pour les enfants de rébellion, afin que tu fasses cesser de devant moi leur murmure et qu'ils ne meurent point. » Moïse fit ainsi, il se conforma à l'ordre que l'Éternel lui avait donné. Les enfants d'Israël dirent à Moïse, « Voici, nous expirons, nous périssons tous. Quiconque s'approche du tabernacle de l'Éternel meurt. Nous faudra-t-il tous expirer ?» Amen. Ce soir, j'aimerais que nous puissions nous attarder quelques instants sur ces quelques versets, et plus particulièrement sur le bâton fleuri d'Aaron. Je pense que pour la plupart d'entre nous, vous avez saisi le contexte dans lequel ces versets sont écrits. Ils viennent juste après la rébellion des fils de Corée. Cette rébellion a été pointée en réalité contre l'autorité du Seigneur. Les fils de Corée, quelques membres du peuple, n'ont pas compris que ce soit Moïse, ou plutôt Dieu qui dirige au travers de Moïse. Et comme bien souvent cela peut se passer, il y a eu sûrement de la jalousie, ils ont envié le sacerdoce. Moïse d'ailleurs pourra leur dire, mais voilà, vous servez déjà, cela devrait vous suffire. Et vous voulez plus, vous voulez plus. Et on le sait, le jugement de Dieu va venir, c'est dans le chapitre précédent, la terre va s'ouvrir et va engloutir une grande partie du peuple ce jour-là, une partie du peuple. Ces événements ont marqué le peuple d'Israël. C'était quelque chose, peut-être nous lisons rapidement, nous nous y attardons quelques instants, mais pour le peuple, ça a été un épisode marquant, frappant. Ils ont vu l'autorité de Dieu, mais ça n'a pas suffi. On pourrait se dire à leur place, peut-être qu'on aurait peut-être plus vite compris, mais c'est pas sûr. Toujours est-il, c'est que le peuple n'a pas du tout compris que c'était Dieu. Ils ont commencé à murmurer contre Moïse. Ils ont dit que c'était lui le coupable. Ils n'ont rien compris à l'enseignement du Seigneur. Et vous savez, le Seigneur, dans sa manière d'agir, a toujours cette délicatesse. Et dans nos vies, c'est ainsi. Quelquefois, les signes sont évidents. Quelquefois, on a murmuré, on n'a pas compris l'autorité du Seigneur, ses plans, ses projets, ce qu'il voulait pour notre vie. Et les choses ne se passent pas toujours comme on l'aurait aimé, et c'est tant mieux quelque part. Et quelquefois, au lieu de comprendre que c'est Dieu qui a disposé les choses de telle manière pour notre perfectionnement, on va dire, mais c'est parce que ceci, c'est parce que cela, c'est la faute de telle personne, de ce chrétien, du pasteur, c'est la faute de mon épouse, de mon mari, et ainsi de suite. Et le Seigneur, dans sa délicatesse, voulait enseigner le peuple. Il aurait pu régler le problème en quelques secondes. Au lieu d'ouvrir, je pense que c'est écrit, voilà, la fin du chapitre 16, il y eut 14 700 personnes qui moururent de cette plaie, outre ceux qui étaient morts à cause de Corée. Donc ce jour-là, lorsque le Seigneur a vu encore et entendu les murmures du peuple, il aurait pu régler la situation, comme il avait déjà dit à Moïse, « Écoute Moïse, voilà, là c'en est trop, laisse-moi exterminer ce peuple. » Mais cette fois-ci, il n'a pas fait. Parce qu'il voulait que les enfants d'Israël, son peuple élu, ce peuple qu'il s'est choisi, et au-delà d'Israël, c'est de nous dont il est question, Dieu avait et a toujours d'ailleurs ce souci de nous enseigner, de nous façonner pour que nous puissions comprendre ses plans et son chemin. Il va donc demander que pour chaque tribu, il y ait une verge, un bâton, on pourrait dire aujourd'hui, qui soit donné. La verge, le bâton, on l'a peut-être, vous l'avez en tête, ça symbolise la puissance, l'autorité divine, la puissance de Dieu. On se souvient, lorsque Moïse était là avec ce bâton qui lui a été donné lors de son appel, et qu'il s'est trouvé devant la mer Rouge, « Lève ta verge, lève ton bâton, étends ta main et fends la mer. » Et ce qui est en train de se produire pour le peuple d'Israël, c'est une introduction un peu longue, mais c'est que Dieu voulait que son peuple comprenne que l'autorité, c'est Dieu qui donne, que c'est lui qui appelle, que c'est lui qui donne, qui fait. C'est pas nous. Et si nous pouvons avoir quelques services, si nous pouvons effectivement faire quelque chose pour le royaume de Dieu, ça ne vient pas de nos capacités surdéveloppées extraordinaires, mais c'est là un cadeau, une grâce du Seigneur. Le peuple était charnel, quelque part. Ils pensaient que, par leurs propres efforts, ils pouvaient arriver à faire ce que Moïse faisait. D'ailleurs, Moïse, je l'ai noté, Moïse pourra dire quelque chose que l'on pourrait mettre aisément en parallèle avec le ministère de Jésus-Christ, parce que Moïse, lorsqu'il va voir le peuple se révolter, va leur dire « Mais attendez, l'Éternel m'a envoyé pour faire toutes ces choses et je n'ai pas agi de moi-même. » Autrement dit, on comprend bien que le ministère de Moïse, son rôle, était de faire exactement, d'ailleurs on l'a bien vu dans le texte, tout ce que Dieu demandait. Et bien sûr, ça a attisé la jalousie. On en vient donc à ces verges, à ce bâton. Moïse rassemble ce qui pouvait symboliser l'autorité de chaque tribu, va mettre ça dans la tente du témoignage, dans cette tente qui symbolise la présence de Dieu. Et on doit comprendre que nous devons sans cesse dépendre du Seigneur. Et si Dieu nous fait la grâce de nous donner quelque chose, on comprend que c'est de lui que vient ce que nous avons. Qu'as-tu, pourra dire l'apôtre Paul, que tu n'aies reçu? Qu'est-ce que tu as dans ta vie qui ne vient pas directement de Dieu? Et pourquoi rentrer dans quelque chose qui pourrait nous enorgueillir? Et toujours est-il, donc, Moïse va prendre les bâtons, va la mettre dans la tente de la rencontre, du témoignage, et Dieu va donner une consigne très simple. Celui que je vais choisir, son bâton va fleurir. Et c'est cela qui nous intéresse particulièrement ce soir. Il y a ce proverbe qui pourrait venir pour étayer un petit peu ces propos, qui nous dit, c'est proverbe 14, verset 11, « La maison des méchants sera détruite, mais la tente des hommes droits fleurira. » On pourrait dire à la place de fleurira, prospérera, s'épanouira. Et effectivement, on comprend qu'on ne peut pas s'épanouir spirituellement sans que notre vie soit constamment devant Christ, devant Dieu. On ne peut pas espérer connaître le bonheur uniquement par la chair, ce n'est pas possible. Bien sûr, on le sait, on peut avoir quelques satisfactions, connaître des joies, et c'est normal, Dieu l'a voulu ainsi. Les chrétiens ne sont pas dénués de tout sentiment, dénués de tout ce qu'ils peuvent ressentir. On peut sentir de la joie dans des choses saines de ce monde, mais la véritable joie, l'épanouissement profond que le Seigneur veut nous faire vivre et veut nous faire connaître tous les jours de notre existence, quand nous sommes dans la tempête, tout à l'heure Nicolas nous partageait cela, lorsque nous sommes dans des temps compliqués, on comprend que ce n'est pas par la chair que nous pouvons avoir cette paix qui surpasse toute intelligence. C'est d'une manière spirituelle. Et le spirituel vient affecter notre caractère, notre vie charnelle, parce que nous devons tendre vers cela, que ce soit le spirituel qui domine et qui régisse notre vie. Le lendemain, tout le monde devait attendre impatiemment, se questionner, mais qui va choisir? Qui Dieu va-t-il choisir? Et pour nous, on l'a lu, ça n'a pas pris beaucoup de temps. On voit que c'est la verge d'Aaron qui a été choisie. Et la Bible va donner quelques détails. Il est poussé des boutons, il est poussé des fleurs, et il est mûri des amandes. Et c'est cela qui va nous intéresser, comment Dieu a répondu, et peut-être pourquoi est-ce qu'il a répondu ainsi. L'amandier. On en parle quelquefois dans la parole de Dieu. Est-ce que vous savez, vous connaissez la particularité de cet arbre? Moi, j'ai dû regarder sur Internet. Exactement, voilà. C'est le premier arbre qui fleurit après l'hiver. Et c'est intéressant parce que les fleurs viennent avant les feuilles même. Et dans la parole de Dieu, dans ce texte que nous avons lu, littéralement, par rapport à cette réalité que notre sœur a dit, par rapport à cela, le peuple, le sens littéral de ce mot, c'est s'éveiller. S'éveiller. On pourrait presque traduire par perdre son sommeil. Et je pense que pour nous, c'est ça qui nous intéresse. Le Seigneur, lui, veut se servir de ses enfants. C'est évident. On a des œuvres préparées par avance. Si nous sommes ici, si le Seigneur ne nous a pas enlevés à la seconde où nous sommes convertis, c'est parce que nous avons un travail à faire pour le royaume de Dieu. Mais Dieu ne peut se servir que de personnes qui sont éveillées spirituellement. Dieu ne peut pas se servir de personnes qui sont endormies, de personnes qui se disent éveillées, alors que spirituellement, ils sont encore dans ce sommeil, on pourrait dire, hivernal. Dieu désire que nous puissions comprendre que sa volonté, c'est que on soit aux aguets, qu'on soit comme une sentinelle, qu'on soit sensible à notre environnement, sensible à ce qui se passe. Tout à l'heure, notre frère Jonathan faisait cette prière en disant « Mais Seigneur, qu'on ait ta compassion, ta miséricorde. » Et Dieu recherche des hommes, des femmes qui ont compris que ce qu'ils ont finalement, on ne peut pas s'en glorifier parce que c'est Dieu qui nous donne cela, mais qui ont compris également que on ne doit pas rester dans un sommeil, dans un contentement, dans une sorte de repos fictif, bien mérité, mais peut-être qu'on doit être aux aguets, se dire, mais est-ce qu'il serait pas temps que je ressemble à l'amandier, que je sorte de ce repos? Est-ce qu'il n'est pas temps que je puisse, et on va le voir pendant quelques instants encore, produire quelques bourgeons ou autre? Est-ce qu'on ne doit pas être semblable à ces sentinelles qui veillent, qui regardent, à des personnes qui se tiennent sur la brèche, qui n'ont que faire d'ailleurs d'un titre, qui n'ont que faire d'une certaine prestance ou par rapport aux autres, mais qui recherchent la volonté de Dieu, qui savent reconnaître la voix de notre Maître pour dire « Mais voilà, Seigneur, peut-être que tu me demandes une chose et je veux le faire. Je veux me tenir aux aguets sur ta parole. Je veux me tenir prêt à recevoir la parole de Dieu. » Est-ce qu'on peut être prêt, se tenir prêt à dire « Seigneur, voilà, je suis là, parle, ton serviteur écoute. Parle, je suis disponible, je suis libre. Qu'est-ce que tu veux que je fasse ?» C'est cela être éveillé, s'éveiller. Veiller, le mot également, signifie. Et quelque part, on comprend que dans ces quelques versets, Dieu veut communiquer cela au peuple, veut qu'ils comprennent que c'est sûr, c'est Dieu qui rachète, c'est Dieu qui sauve, mais Dieu veut se servir de nous. Et il veut que nous puissions vivre, comprendre que la seule manière de porter du fruit, puisque c'est cela qui nous intéresse particulièrement, la seule manière de porter du fruit, c'est que Christ demeure en nous et qu'il puisse grandir. Un homme de Dieu dira un jour, mais on entend des prières, et c'est des bonnes prières, « Seigneur, donne-moi le fardeau des âmes. » Vous avez déjà prié comme cela ? Oui, moi je l'ai déjà fait. « Seigneur, donne-moi le fardeau des âmes. » Et cet homme de Dieu résumera cela en disant, « Mais on pourrait prier de la sorte en disant, « Seigneur, grandis en moi. » Parce qu'automatiquement, si Christ grandit en nous, on aura le fardeau des âmes. On aura le fardeau des âmes. Et ce qui est important, frères et sœurs, c'est que on puisse porter du fruit. Parce que Dieu avait donné une consigne qui était simple. Il va dire au peuple, c'est lui qui parle, le bâton, la verge qui va fleurir, c'est de cet homme, le bâton de cet homme, c'est lui que je vais choisir. Est-ce que Dieu aurait pu s'arrêter juste là ? Oui. Si Dieu avait fait juste les bourgeons, est-ce que ça aurait pu presque suffire ? Puisque c'est là miraculeux déjà. Si Dieu avait fait des bourgeons et des fleurs, c'est ce qu'il avait dit. Il aurait pu s'arrêter là en disant « Mais voilà, ça suffit. » Mais le Seigneur va aller plus loin. Et c'est ce plus loin qui doit nous intéresser. La Bible nous dit qu'il va faire mûrir l'amande. Et le problème, ce qui peut se passer dans notre vie, c'est que on peut s'arrêter au bourgeon. On peut s'arrêter au bouton en disant « Mais Seigneur, voilà, je t'ai demandé juste ça, ça suffit pour moi. Je t'ai demandé le salut, je suis sauvé. Merci Seigneur, je reste sauvé. » Et on voit certaines personnes qui s'arrêtent au bourgeon. On voit certaines personnes qui s'arrêtent aux fleurs, qui font quelques progrès. C'est peut-être le cas de certaines personnes ce soir, des personnes qui ont développé une certaine intimité avec le Seigneur, qui ont compris que c'est de Dieu dont on doit dépendre, Christ qui vit en nous, on expérimente la grâce, on expérimente les réponses aux prières, on voit des bien-aimés pour qui on a prié, les fleurs sont là. Mais le Seigneur, peut-être ce soir, voudrait nous amener à ne pas forcément se satisfaire des bourgeons, se satisfaire des fleurs, parce qu'il faut que le fruit soit mûr. Il faut que le fruit arrive à maturité pour qu'il soit en pleine bénédiction. On se souvient, et peut-être vous y avez pensé même ce soir, lorsque Jésus va raconter, partager cette parabole du semeur. Vous vous souvenez ce qu'il dit lorsque, dans l'évangile de Luc, lorsqu'il est question de cette semence qui tombe parmi les épines ? Il va dire, voilà, la semence grandit en même temps que les épines, mais on est d'accord, la semence grandit. on pourrait dire, par rapport au texte que nous venons de partager, les bourgeons sont venus, merci Seigneur, parce que c'est Dieu qui fait croître quand même. On pourrait dire, mais il y a même les fleurs qui sont venues, mais le problème, c'est qu'il peut y avoir toujours les épines dans la vie de quelques personnes, et si on ne règle pas ces choses, ça ne permettra pas aux fruits de venir, parce que la suite, Jésus pourra dire, il ne porte point de fruits qui viennent à maturité. C'est Luc 8, verset 14. Il ne porte point de fruits qui viennent à maturité. Et il faut sûrement se remettre dans le contexte. Le peuple d'Israël murmurait. Le peuple d'Israël voulait prendre les armes, prendre les devants, en mettant Dieu de côté. Mais ce n'est pas ça que Dieu veut qu'on puisse faire. Dieu ne cherche pas des hommes extraordinaires, des femmes extraordinaires, des personnes avec des capacités incroyables, mais Dieu cherche des hommes, des femmes qui vont ne pas se contenter uniquement des bourgeons, uniquement des fleurs, mais qui vont faire en sorte que le fruit puisse arriver à maturité, qui vont faire en sorte que les prières ne vont pas être étouffées par quelque chose qui sont là dans notre vie pas réglées, qui vont faire en sorte que la sainteté demeure comme une priorité dans la vie. Se mettre à part pour Dieu, comprendre que le Seigneur a un projet dans lequel le compromis n'a aucune place, pour que nous puissions porter du fruit, pour que le fruit arrive à maturité, pour que le fruit soit pour les autres, puisque nous savons très bien que le fruit n'est jamais pour soi. Jésus pourra le dire d'une autre manière. C'est Jean chapitre 15 qui nous dit cela. « Je suis le cep, vous êtes les sarments, celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Mais sans moi, ça veut dire qu'il faut que Jésus soit avec nous, et pour que Christ soit avec nous, il faut qu'on ait réglé certaines choses dans notre vie, dans notre existence, notamment quelques ronces, quelques épines qui méritent d'être déracinées. Peut-être pour certains, ça va être des cailloux qui sont là, des cailloux qui peut-être qu'on ne voit pas, mais lorsqu'on va commencer à remuer la terre, on va voir que il y a des anciennes choses qui sont là, des choses que peut-être on aurait dû régler. Et voilà, vous savez, c'est un message très simple finalement. Ne nous satisfaisons pas des bourgeons, des fleurs, parce que Dieu veut nous amener à mûrir, à ce que notre fruit puisse mûrir pour bénir les autres. Veut nous amener à ce que nos prières soient accepté, soit confirmé par la puissance du Saint-Esprit. D'ailleurs, on terminera bientôt, ce que Dieu va demander. Dieu aurait pu dire, et là encore on voit comment le Seigneur agit avec tellement de délicatesse, avec tellement de respect, de patience, parce que une fois que la verge d'Aaron avait fleuri, avait mûri des amandes, il aurait pu dire, écoute, Moïse, voilà, tu vas dire au peuple qu'ils se préparent parce qu'ils ont été rebelles, ils m'ont remis en question, ils vont être punis, ils vont être châtiés. Dieu aurait pu faire cela. Il y a de nombreuses reprises, on se rend compte que dans notre vie, Dieu aurait pu faire cela. Mais l'amour de Dieu nous pousse toujours à comprendre, à nous amener dans la repentance peut-être, pour quelques-uns ce soir, de dire « Seigneur, mais c'est vrai, pardonne-moi, je n'ai pas compris ton plan, je n'ai pas compris ton projet. » Parce que ce que le Seigneur va faire, bien sûr, ça confirme le fait que le fruit soit pour les autres. Regardez si vous avez toujours votre Bible ouverte dans Nombre chapitre 17. Nombre chapitre 17, regardez ce que dit le verset 10. c'est ce que Dieu va commander à Moïse. Reporte la verge d'Aaron devant le témoignage pour être conservée comme un signe pour les enfants de rébellion, afin que tu fasses cesser de devant moi leur murmure et qu'ils ne meurent point. Moïse fit ainsi, il se conforma à l'ordre que l'Éternel lui avait donné. Le témoignage et le signe. Dans notre vie, frères et sœurs, ce qui peut faire toute la différence, ce qui peut marquer les gens, c'est que on est scellé par le signe de Dieu. Et que dans notre vie, il y a des choses qui sont manifestes, qui font la différence. Parce que vous serez d'accord avec moi, les enfants de la rébellion, c'était nous avant. C'était nous avant. Mais il y en a encore autour de nous. Il y en a encore. Là où nous sommes, il y en a. Au travail, dans le métro, où vous voulez, il y a des enfants de rébellion. Et comment est-ce que nous pouvons manifester la gloire de Christ, cette vie que Christ nous a donnée, cette lumière, si là où nous sommes, nous ne servons pas de signe? Comment est-ce que nous pouvons apporter le fruit que produit notre piété aux autres si notre fruit n'arrive pas à maturité? C'est impossible. Sinon, il sera indigeste. Sinon, il ne sera pas comestible. D'ailleurs, puisqu'on parlait de l'amandier, vous savez qu'il y a l'amandier sauvage. Et vous savez que l'amandier sauvage, si vous prenez son fruit à forte dose, c'est un fruit qui peut être mortel. Et de la même manière, et Jacques l'exprime très bien, nous pouvons, par notre comportement, dans notre manière d'être en tant que chrétien, en tant qu'enfant de Dieu, par rapport à notre communion en lien avec l'amour que nous avons de Dieu, effectivement, mais dans notre désir d'honorer la parole de Dieu, nous pouvons soit bénir, nourrir, donner la vie, ou soit nous pouvons, comme le dit Jacques, nous pouvons maudire. Nous pouvons ne pas amener la vie, et c'est de notre responsabilité. Et ce que Dieu veut rappeler ce soir à son peuple, à nous, c'est de nous encourager pour que nous puissions persévérer dans notre manière de nous comporter, et en étant toujours attachés, en vivant attachés à Christ, scellés, pour que, encore une fois, je le répète, notre fruit puisse bénir et apporter la vie autour de nous. Je terminerai juste avec ce verset. Le verset 7 de Nombre, chapitre 18. Le Seigneur, dans sa miséricorde, va rappeler ces choses. On peut même lire à partir du verset 5. Nous lisons, vous observerez ce qui concerne le sanctuaire et l'autel, afin qu'il n'y ait plus de colère contre les enfants d'Israël. Voici, j'ai pris vos frères, les Lévites, du milieu des enfants d'Israël, donnés à l'Éternel. Ils vous sont remis en don pour faire le service de la tente d'assignation. Toi et tes fils avec toi, vous observerez les fonctions de votre sacerdoce pour tout ce qui concerne l'autel et pour ce qui est en dedans du voile. C'est le service que vous ferez, je vous accorde, en pur don, l'exercice du sacerdoce. Et Dieu va comme mettre une conclusion à cet épisode pour que l'ensemble du peuple comprenne que tout est grâce, frères et sœurs. Tout est grâce. Le fait de porter du fruit, c'est grâce. Le fait d'expérimenter, de voir des bourgeons dans notre vie, des fleurs, c'est grâce. le fait de pouvoir se libérer des ronces, des épines, des cailloux, c'est grâce. Le fait de comprendre, de saisir l'œuvre de la croix, c'est grâce. Et voilà ce que Dieu veut donner au monde. C'est cela qu'il veut donner. Bien sûr, il a donné son Fils, et on le sait. Il a donné son Fils pour offrir le salut au monde. Mais la Bible nous enseigne que comment le monde va pouvoir connaître l'Évangile si personne n'est là pour annoncer. C'est là notre rôle. Parce que, quand même, c'est ce que Dieu fait. Il nous accorde ce don pour que nous puissions partager, propager la bonne nouvelle pour que le plus grand nombre puisse être sauvé. On prie le Seigneur. Seigneur, merci pour ta parole. Merci pour ce que tu nous enseignes. Merci pour ta délicatesse, ta miséricorde, ton amour. Nous sommes bénis de voir cela, de le comprendre, de l'expérimenter. Et nous voulons encore ce soir venir dans ta sainte présence, demeurer en toi, te laisser toute la place. Seigneur, pardonne-nous pour toutes les fois où nous avons été rebelles, où nous n'avons pas compris tes plans, ta volonté, où nous avons mis la faute sur quelqu'un d'autre, alors que, en réalité, ça venait de nous, de notre cœur méchant. Pardonne-nous toutes les fois où nous avons cru pouvoir nous passer de toi, où nous avons cru qu'on était suffisamment fort pour faire sans toi. Seigneur, ce soir, nous voulons venir encore devant toi pour te dire que nous voulons demeurer attachés à toi. Parce que, oui, sans toi, on ne peut rien faire. On a besoin de toi. Seigneur, secours-nous dans notre vie, dans notre témoignage. Aide-nous à ce que notre fruit puisse arriver à maturité pour bénir les autres, pour que notre vie soit ce signe évident que tu es vivant encore aujourd'hui. Oui, Seigneur, merci pour tout ce que tu vas faire. Peut-être, mon Dieu, ce soir, quelqu'un a encore quelques épines, quelques ronces, quelques cailloux dans sa vie, Seigneur, qui l'empêchent d'apporter à maturité ce fruit. Père, qu'il puisse sortir de ce lieu délivré, qu'il puisse se confier en toi, qu'il puisse expérimenter, oui, que tout est grâce. Seigneur, merci pour ton amour. À toi soit toute la gloire. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen.